Romains chapitre 9, page 1276. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Et cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc ? Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, « Pourquoi fait-il donc encore des reproches ? Qui peut en effet résister à sa volonté ?» Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition ? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, » un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole, avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc ? Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit, « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Ces dernières années, l'actualité nous a réservé pas mal de grandes surprises, si on repense aux quelques derniers mois et même les dernières années. Et un commentateur politique écrivant à ce propos disait que longtemps il avait pensé que l'histoire était comme ce qu'il appelle un arc qui tendait inévitablement vers le progrès humain. Donc ça passe par des voies de traverse, mais on va toujours quelque part vers le progrès. Mais, écrit-il, il y a quelques mois, il a dû se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas d'arc. Et il écrivait en conclusion d'un article qui était assez fort, « L'histoire ne progresse vers rien du tout ». Et face à l'actualité, effectivement, et l'idée qu'ont beaucoup d'une sorte de progrès humain, force est de reconnaître qu'on peut être dubitatif. Pour Pourtant, la Bible affirme que l'histoire a bien un sens. Mais elle a un sens parce qu'elle a un maître. Le Dieu créateur est le maître de l'histoire. Et par extension, il est le maître de nos histoires, à chacun. Il est celui qui a le premier et le dernier mot sur la vie de chacun d'entre nous. Et le texte que nous examinons ce soir marque une transition nette dans cette lettre de Paul aux Romains. Le chapitre 8, que nous avons terminé alors il y a quelques temps maintenant, conclut toute une section qui va en gros du chapitre 3 au verset 8, et dans laquelle Paul développe ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va vraiment parler avec beaucoup de détails, avec une grande richesse d'analyse, pour expliquer en quoi Dieu sauve l'être humain, l'homme pécheur, par Jésus-Christ. Plus loin, à partir du chapitre 12, Paul va passer à des choses plus pratiques. Maintenant qu'on a compris cette bonne nouvelle, comment vivre ? À quoi ressemble la vie de tous les jours ? Donc ça, c'est à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin de la lettre. Mais entre les deux, il y a trois chapitres qu'on entend finalement assez rarement dans nos églises parce qu'ils ne sont pas simples, sans doute. Vous me direz, le reste de la lettre aux Romains n'est pas toujours simple non plus. Mais trois chapitres, 9 à 11, où Paul va en fait reprendre et développer une réflexion qu'il avait entamée au début de sa lettre sur le peuple d'Israël et les nations non-juives dans le plan de Dieu. Et la question en arrière-plan de cette section est la suivante. Les promesses de Dieu à l'égard du peuple d'Israël sont-elles remises en question ? Paul dit ça dans un contexte où il y a des juifs qui sont chrétiens, il en fait partie, Paul est lui-même juif, les apôtres l'étaient également, mais il constate que beaucoup de juifs résistent à sa prédication et à celle de l'évangile, tandis que beaucoup de non-juifs se tournent vers Jésus-Christ. Et donc il fait face à ce constat. Les promesses de Dieu à l'égard d'Israël sont-elles remises en question ? On va voir ce que Paul en dit. On va s'en tenir au chapitre 9 pour ce soir, et puis on verra les semaines suivantes pour donc les chapitres 10 et 11. Et ce soir, nous allons réfléchir à ce texte donc en trois temps. D'abord une question douloureuse, puis une réponse historique, et ensuite une parenthèse délicate. Ça va ? Bon, jusqu'ici, je vous ai encore. Une question douloureuse, tout d'abord. Lorsqu'un malheur affecte son pays ou son peuple, ça nous touche particulièrement. Par exemple, les Français de l'étranger ont été bouleversés, ont été profondément affectés par les attentats de 2015, sans doute plus que le reste du monde. À une bien plus grande échelle encore, les Haïtiens de France, par exemple, ont été bouleversés par le terrible séisme de 2010. Et on pourrait multiplier les exemples. L'apôtre Paul se situe un petit peu dans ce registre au début du chapitre 9. Il exprime son émotion face à ce qu'il vit comme un drame pour son peuple. Versets 2 et 3, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. » C'est fort de dire ça quand même. J'aimerais, si c'était possible, moi être maudit et séparé de Christ, si ça pouvait vouloir dire que mes compatriotes, eux, seraient sauvés. Curieusement, dans ce texte, Paul ne va jamais dire explicitement de quel drame il parle. Mais dans le contexte, c'est très clair. Ce qui désole Paul, c'est le fait que tant de ses compatriotes juifs rejettent la foi en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que Paul est particulièrement attristé ? D'une part, bien sûr, parce que c'est de son propre peuple qu'il s'agit, ses compatriotes. Mais aussi parce que pour lui, Jésus-Christ est bel et bien le Messie d'Israël, celui qu'annonçaient les prophètes depuis des siècles. Et l'apôtre rappelle, comme il l'a déjà fait au chapitre 2, la place particulière de ce peuple dans le plan de Dieu. Verset 4, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et il poursuit au verset 5, avec ce qui est pour lui le clou de tout ça, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, Jésus, juif lui-même, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Waouh, il y a beaucoup de choses là dans ce verset. Notamment au passage, Paul affirme alors avec une clarté limpide la divinité de Jésus, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Donc si on a un doute, si c'est ce que la Bible affirme la divinité de Jésus, là, c'est extrêmement clair. Mais au-delà de cette affirmation saisissante, Paul souligne que Jésus est venu dans la continuité de toute l'histoire d'Israël pour accomplir les promesses de Dieu à l'égard de son peuple. Et en même temps, il constate que la majorité de ses compatriotes rejettent ce message. Et il vit cela comme un drame personnel. Il souffre profondément de voir que son peuple, en grande partie, est en train de se priver du salut qui lui était promis depuis des siècles. Et ça suscite chez lui, et sans doute chez certains de ses lecteurs, juifs ou non-juifs, une question douloureuse. Est-ce que Dieu, dans un sens, a échoué dans ses projets pour Israël? À quoi sert d'avoir des promesses pour Israël si la grande majorité ne se tourne pas vers Dieu, entre guillemets? Et dans un sens, cette question se pose aujourd'hui encore, pourrait se poser, alors que la foi chrétienne puise ses racines dans la foi juive, c'est exactement ce qui va être dit au chapitre 11, les racines, eh bien l'immense majorité des chrétiens du monde, aujourd'hui encore, ne sont pas d'origine juive. Alors une première question que nous pourrions nous poser en lisant cela, c'est est-ce que nous ressentons avec Paul cette même peine pour le peuple juif et ce même profond désir que ce peuple si important dans l'histoire biblique puisse connaître son Messie? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Mais j'élargirai cette question. Est-ce que nous partageons cette tristesse pour tous ceux qui, quelle que soit leur origine, se privent tragiquement du salut et de la vie nouvelle que Dieu offre? Mais je reviens à notre question douloureuse, est-ce que les promesses de Dieu seraient devenues caduques? Est-ce qu'elles seraient annulées? Eh bien, Paul va y apporter une réponse historique et biblique, et il va montrer que non, verset 6, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Et donc, on arrive au second point, une réponse historique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu « La vie est un long fleuve tranquille ». C'est un film qui est sorti en 1988, je recommande, très bon film, qui évoque deux familles dont les bébés ont été échangés à la naissance, à l'insu des familles, justement. Le fils d'une famille de grands bourgeois, les Lequesnois, est récupéré par une famille de milieu très modeste, les Groseilles. Et la fille Groseille, donc, va atterrir chez les Lequesnois, tandis que le fils Lequesnois va atterrir chez les Groseilles. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris avec ce film, c'est comment ils ont pu confondre un garçon et une fille. Ça, il faut demander au réalisateur. Ça aurait été simple de prendre deux films. Bon, enfin bref. Toujours est-il qu'une chose est claire dans ce film. À partir du moment où on grandit dans une famille, la réalité biologique n'est pas vraiment quelque chose de décisif. Ce qui est décisif, ce n'est pas d'avoir le même ADN. Je ne dis pas que ça n'a aucun effet. Mais ce qui est décisif, ce n'est pas ça. C'est la relation qu'on entretient avec les personnes. Et de fait, la petite fille élevé chez les grands bourgeois, c'est une petite fille de grands bourgeois. Et le petit garçon élevé dans le HLM, c'est un petit garçon de la cité. Ce n'est pas parce qu'ils ont un ADN différent que ça fait une différence dans leur manière d'être élevé. Et après, bien sûr, le subterfuge est découvert et toute la comédie tourne autour de ça. Mais ce qui est décisif, donc, ce n'est pas la lignée biologique, c'est la relation. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul va souligner. Ce qui est décisif pour connaître Dieu, ce n'est pas l'origine. C'est la relation. On a vu que la question qui se pose dans ce texte est la suivante. Est-ce que le plan de Dieu à l'égard d'Israël a échoué? Et Paul va répondre que non. Il va montrer que la réponse est non, et il va le faire de diverses manières. Plus loin, au chapitre 11, donc on ne va pas voir ça ce soir, Paul montrera que Dieu n'a pas oublié le peuple juif. Mais dans ce chapitre, il va surtout montrer que ça n'a jamais été l'origine ethnique en tant que tel, qui permet de connaître Dieu et de recevoir ses promesses et sa bénédiction. Ça n'a jamais été ça qui était décisif. On peut être de la descendance d'Israël de naissance, mais ne pas bénéficier de la promesse de Dieu. Et il va donner deux exemples bibliques à l'appui de cette affirmation, de cet argument. D'abord, il évoque Abraham, l'homme de la promesse, justement. Abraham, à qui Dieu a promis, Genèse chapitre 12 et chapitre suivant, une descendance nombreuse et qui hériterait de la bénédiction de Dieu. Mais Paul souligne que certains enfants d'Abraham n'ont pas été concernés par cette promesse. Seul un de ses fils, Isaac, a bénéficié de cette promesse. Et Paul en tire la conclusion suivante, verset 8. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Ce qui est décisif n'est pas l'origine ethnique, mais la volonté de Dieu et les promesses qu'il adresse. Paul va ensuite prendre un second exemple. Il passe à la génération juste après, les enfants d'Isaac, le fils d'Abraham. Isaac et sa femme Rebecca ont eu deux fils jumeaux, Jacob et Ésaü, mais Dieu a adressé sa promesse à l'un des deux, Jacob, et non pas à l'autre, Ésaü. Et Paul souligne que Dieu était souverain sur ce choix. Verset 11, les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix. Encore une fois, la question clé n'est pas celle de la lignée physique, mais celle de la grâce que Dieu décide d'accorder. Et ainsi, Paul rejoint l'argument du début de la lettre. Juifs et non-juifs sont tout autant pécheurs devant Dieu. Ils n'ont aucun droit, ni les uns ni les autres, aucun droit à faire valoir devant lui. Leur seule espérance, c'est la grâce de Dieu. Et à la fin du chapitre 9, l'apôtre va poursuivre en montrant que, en fait, il n'y a rien de nouveau là. La Bible a déjà montré à bien des reprises que ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui met sa confiance en Dieu, mais une partie seulement, et pas forcément la plus grande partie. Et pour ça, il va citer Ésaïe au verset 27. « Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Et à l'inverse, des gens qui n'avaient rien à voir avec Israël ont pu découvrir par la foi un Sauveur et Seigneur en Jésus-Christ. Souligne Paul. Et verset 30, donc, « Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. » Et déjà, dans l'Ancien Testament, on avait des exemples de non-juifs qui rencontraient le Dieu vivant, malgré le fait qu'ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Donc voilà, pour Paul, les choses sont claires. Ce n'est pas le fait d'être juif ou non-juif qui est déterminant, c'est le fait d'avoir reçu ou non la grâce de Dieu. Mais ça pose une nouvelle question. Parce que dans ce texte, comme dans le reste de la Bible, eh bien, on voit bien que justement Dieu fait des choix. Dieu choisit certains pour leur faire grâce et pour leur adresser des promesses. Et là, on arrive sur un terrain très délicat, ce qu'on appelle la doctrine de l'élection, ou parfois de la prédestination. Et sur ce point, Paul va faire une parenthèse. C'est une parenthèse. On cite beaucoup ce milieu du texte parce que c'est un sujet tellement controversé, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est une parenthèse dans un propos plus large sur juifs et non-juifs dans le plan de Dieu. Mais ça n'empêche pas que cette parenthèse ait toute sa place. Et Paul va s'éloigner donc un peu de cette question de juifs et non-juifs, et il va répondre à cette objection si courante aujourd'hui encore. Verset 14, Dieu serait-il injuste ? Et c'est notre troisième point. Une parenthèse délicate. L'apôtre Paul vient de montrer que c'est la grâce de Dieu qui détermine qui hérite de ses promesses. Il vient de donner des exemples bibliques, et notamment celui de Jacob et d'Ésaü. Et à propos de cet exemple de Jacob et Ésaü, il va citer le prophète Osée, qui emploie un langage très fort. Il y a un jeu de mots qui demande d'être fait, mais je vais éviter. Un langage très osé, bon bref. Donc, le prophète Osée emploie un langage très fort. « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü », verset 13. C'est un langage qui nous choque, il faut le reconnaître. « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Ce langage nous choque, mais il faut être sensible au fait que la pensée hébraïque de l'époque aimait beaucoup les contraires et les oppositions très fortes dans la manière de s'exprimer. Et le prophète Osée semble employer ici une formule poétique pour dire « j'ai accordé ma faveur à Jacob et pas à Ésaü ». Et on a d'autres exemples dans la Bible de ce type de langage. Et de fait, quand on lit l'histoire de Jacob et Ésaü dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a pris soin d'Ésaü aussi, a fait du bien à Ésaü, lui a même accordé certaines bénédictions. Mais Dieu a choisi Jacob pour être l'héritier des promesses faite à son père Abraham. Et d'ailleurs, on peut remonter à Abraham et reconnaître que c'est Abraham lui-même qui a été choisi. Dieu a choisi un homme parmi cette grande tribu nomade de Ur en Chaldée. Il a choisi Abraham, il n'a pas choisi Patrick qui était dans la tente d'à côté. C'est Abraham qu'il a choisi souverainement. Et puis Dieu a choisi Israël et non pas les Mésopotamiens et les Assyriens, par exemple, ou les Hittites. Il a choisi Israël. Donc la Bible présente Dieu comme un Dieu qui fait des choix. Alors un choix et un choix de personne, ça peut être une très bonne chose, bien sûr. Je vais reprendre un exemple que j'ai entendu utiliser par quelqu'un d'autre. Mais quand, par exemple, quand ma femme m'a choisi comme mari, elle n'était pas obligée de m'épouser, je ne me suis pas dit « Pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi et pas un tel ? Comment ça se fait ? Mais c'est injuste !» Non, je me suis réjoui de son choix. Et de même, et j'étais bien content d'être choisi, et de même si votre patron... Prendre un autre cadre. Si votre patron vous dit que vous avez été choisi pour mener à bien telle mission, vous n'allez pas voir ça comme une injustice. Vous allez vous en réjouir de la confiance qui vous est faite. Maintenant, ça n'empêche pas que l'idée que Dieu choisit certains pour le salut et pas d'autres, ça reste dur à entendre. Et l'apôtre Paul le sait bien. C'est pour ça qu'il passe du temps pour en parler. Dieu n'est-il pas injuste, verset 14 ? Et là, ce qu'on voudrait entendre de la part de Paul, c'est « Non, mais je me suis un peu mal exprimé. Dieu n'a pas choisi Jacob, vraiment, aux dépens d'Ésaü, c'est une façon de parler. C'est juste que Jacob a eu une foi qu'Ésaü n'a pas eue. Et Dieu le savait à l'avance. » C'est tentant de dire ça. Le problème, c'est que ça ne cadre pas, d'une part avec ce qu'on lit dans la Genèse, et pas du tout avec ce que l'apôtre Paul dit ici. Verset 11, les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Précisément, il insiste sur le fait que ce n'était pas dû au mérite des enfants, de quelque manière que ce soit. Alors, quelle est la réponse que l'apôtre Paul donne ? Verset 15, il dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. À première vue, on peut avoir le sentiment que Paul ne répond pas vraiment à l'objection. Oui, d'accord, Dieu fait ce qu'il veut, mais en quoi ça répond à la question de l'injustice ? Mais en fait, la réponse de l'apôtre Paul est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Parce qu'il montre que, précisément, Dieu n'est pas injuste. Parce que si nous nous en tenions à la stricte justice, Dieu condamnerait tout le monde. Et c'est ce que Paul a passé quand même deux chapitres à montrer au début de sa lettre. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Déjà parce qu'il est le Créateur, on lui doit tout. Il n'y a rien en dehors de lui. On lui doit absolument toute chose. Mais aussi parce que l'homme est pécheur et s'est détourné de Dieu. Et si Dieu sauve le pécheur, c'est une grâce. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous doit. Et donc, Paul montre que la justice n'est pas le bon registre. Le registre de la justice n'est pas le bon registre pour réfléchir à cette question. Parce que si Dieu s'était contenté d'être juste, nous serions tous condamnés. Mais Dieu a choisi de faire grâce à certains. Et dans tout ce passage, c'est frappant de voir que Paul va résister à la tentation si courante de relativiser le choix de Dieu, de dire que Dieu ne fait qu'anticiper nos choix, qu'en dernier recours, il s'incline devant notre libre arbitre. On constate qu'au contraire, Paul ne lâche rien de la souveraineté de Dieu. Verset 18, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et il va donner l'exemple du Pharaon lors de l'Exode que Dieu a utilisé pour montrer sa puissance. Est-ce que ça veut dire que le Pharaon n'était qu'une marionnette qui a subi ça comme une contrainte ? Pas du tout. Le texte de la Genèse montre bien que le Pharaon lui-même s'est endurci. Il a décidé de refuser de laisser sortir d'Égypte Israël. Il a décidé par sa volonté de s'opposer à Moïse et à Aaron. Il n'a pas été contraint à cela. Et en même temps, et il y a un mystère, il faut le reconnaître, il y a quelque chose là qui nous échappe. En même temps, Dieu n'était pas un spectateur passif qui attendait de voir ce que ça allait donner. Mystérieusement, l'endurcissement pleinement volontaire du Pharaon rentrait aussi dans le cadre des projets souverains de Dieu, pour Israël en l'occurrence. Il est le maître de l'histoire. Et c'est intéressant de voir au verset 17 le but de tout cela, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. En définitive, Dieu veut que les hommes de toute nation le connaissent. Dieu veut se réconcilier avec l'humanité. Mais dans son plan de réconciliation, certains sont sauvés par grâce, pure grâce, imméritée. D'autres, comme le Pharaon, restent livrés au jugement qu'ils méritent et que nous aurions mérité si nous avons été sauvés par grâce. Ça reste dur à entendre. Et Paul anticipe l'objection suivante, verset 19. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu fait encore des reproches? Parce que qui peut résister à sa volonté? Et là, on se dit que Paul va enfin lâcher un peu de lest. Mais regardez sa réponse, verset 20. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Et cette réponse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une pirouette pour éviter la question. Parce que si nous croyons que Dieu est à l'origine de toute chose, que le simple fait que nous ayons même une notion de justice, ça vient de lui, alors au nom de quelle valeur indépendante de Dieu est-ce que nous pourrions évaluer sa conduite? Dieu n'est pas obligé de sauver qui que ce soit quand on considère que les hommes sont pécheurs et se sont révoltés contre lui. Il n'a jamais été obligé de me sauver. Sinon, ça ne serait pas une grâce. Et c'est le sens de l'exemple du potier, une image biblique courante, comme on l'a vu déjà dans la lecture que Marie a faite tout à l'heure, et que Paul reprend au verset 21 à 23. Dieu est le créateur qui a façonné l'homme comme un potier façonne un vase. Nous avons été créés pour Dieu, et non pas l'inverse. Or, l'homme s'est détourné de son créateur. Dieu l'a laissé faire, d'ailleurs, on note cela. Il n'a pas contraint l'homme à rester. L'homme s'est détourné de Dieu depuis nos premiers parents et il n'a cessé de répéter, génération après génération, cette révolte contre Dieu, de plein de manières différentes. Mais Dieu a choisi d'une part d'être patient, verset 22, de continuer à prendre soin du monde. Je ne sais pas si on réfléchit à ça, mais Dieu continue à prendre soin quotidiennement de gens qui ne le connaissent pas et qui ne veulent rien avoir avec lui, en donnant l'air pour respirer, en donnant la joie dans beaucoup de choses, en donnant la nourriture à manger, etc. Dieu continue à prendre soin des hommes qu'ils ne connaissent pas. Il permet à des hommes et des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, sont révoltés contre lui, à bénéficier de ses bienfaits, à prospérer même, souvent. Dans ce sens, il y a une grâce que Dieu fait à tous les hommes. Ce que les théologiens appellent la grâce commune. Mais selon un choix qui appartient à Dieu, eh bien, il a choisi d'intervenir dans la vie de certains pour les sauver par sa grâce. Et lui seul est maître de ce choix. Un choix qui implique pleinement la volonté de ceux qui l'appellent à croire. Il y a une part de mystère. Ça serait inquiétant si on pouvait tout comprendre de Dieu. Ça laisserait entendre que Dieu n'est qu'une idole faite à notre image. Le fait qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas sur lui doit plutôt nous rassurer sur le fait qu'il est bien le Dieu de l'univers, le Dieu transcendant, et que voilà, il y a des choses qui nous échappent. Maintenant, si nous avons du mal quand même avec ça, ce qui est tout à fait compréhensible, voilà trois questions qu'on peut poser. D'abord, que dirions-nous si Dieu n'était pas souverain sur la vie de chacun ? On a envie de dire qu'on voudrait ça dans un sens. Moi, j'aimerais bien que Dieu il nous laisse complètement libre. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on voudrait vraiment que Dieu soit tributaire, que ses projets soient conditionnés à notre libre arbitre? Est-ce que nous faisons tant confiance en nos choix et en notre volonté? Est-ce que nous voulons vraiment que les choix des hommes influent sur les projets de Dieu, au point de les changer? Question ouverte, réfléchissons-y. Deuxièmement, je m'adresse aux chrétiens parmi nous, est-ce que nous prions pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu pour qu'elles se convertissent? Par exemple, à propos d'Horizon Dieu, qui aura lieu mardi soir, ou la sortie semée, ou des proches que nous avons qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que nous prions pour leur conversion? Eh bien, si oui, nous confessons que Dieu est souverain sur la volonté et les décisions de chacun. Sinon, pourquoi prier Dieu? Ça dépend de la personne. Enfin, dernière question qu'on peut se poser, quelle a été notre expérience personnelle si nous sommes chrétiens? Est-ce que c'est nous qui avons réussi à trouver Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui est venu nous trouver et qui s'est révélé à nous? Il y a une part de mystère, je le dis encore, dans l'articulation entre la volonté de Dieu et la nôtre. Dieu a fait de nous des êtres responsables, il ne nous contraint pas à agir de telle ou telle manière, et pourtant, il demeure le maître de notre vie, de A à Z. L'ironie dans tout ça, c'est que nous avons tendance à refuser le droit de Dieu de choisir parce que nous voulons choisir. Donc on dit, moi je ne veux pas que Dieu choisisse parce que je veux que ça soit moi qui choisisse. Et là, on doit entendre la question de Paul. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Mais si Dieu est bien maître de ses choix, il y a une chose qu'il faut dire en conclusion et qui peut nous réconforter peut-être d'une certaine manière, c'est que Dieu promet aussi, Dieu, le Dieu souverain promet, que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais sera sauvé. Il n'y a aucun scénario où quelqu'un placerait sa foi en Jésus-Christ et Dieu dirait « Désolé, tu n'es pas sur ma liste ». Non. Ce n'est pas du tout ça, la doctrine biblique de l'élection. Jamais Dieu ne repoussera celui ou celle qui se tourne vers lui. Peu importe notre origine, nos expériences, nos parcours souvent tortueux, Dieu nous invite à nous réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous, qui a subi la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Et nous pouvons avoir confiance en cette promesse que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir confiance en cette promesse précisément parce que Dieu est souverain, parce qu'il est le maître de l'histoire et parce qu'il est le maître de nos histoires. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons affirmer ce soir encore que tu es le Dieu souverain sur toute chose. Tu nous invites, je crois, dans ta parole à préférer ne pas tout comprendre, mais nous réjouir dans un Dieu qui a la maîtrise de toute chose, plutôt que de vouloir à tout prix tout expliquer, mais du coup, de ne pas confesser qui tu es vraiment. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous aides, malgré la difficulté de cette question, qui est réelle pour nous, aide-nous à te faire confiance, que tu fais toutes choses bonnes, et que oui, tu es un Dieu juste, et qu'au dernier jour, tout genou fléchira, toute langue confessera, et personne ne contestera les choix que tu as faits, car il sera manifeste aux yeux de tous que c'était toujours les bons choix. Donne-nous d'avoir cette confiance. Et merci parce que tu parles à notre cœur, à notre volonté, à notre intelligence. Tu ne nous utilises pas comme des marionnettes, comme on dit souvent. Tu as fait de nous des êtres responsables, créés à ton image, avec qui tu veux une relation authentique et personnelle. Permets, Seigneur, que s'il y en a parmi nous ce soir qui ne te connaissent pas encore, ils puissent entendre cet appel que tu lances, sachant que s'ils viennent à toi par la foi, tu les accueilleras les bras grands ouverts. Au nom de Jésus. Amen.